Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région. On s'emploie pour vous. Le podcast des juniors d'Alsace.
On s'emploie pour vous, le podcast des juniors d'Alsace, épisode 5. C'est le premier épisode en cette année 2021. L'occasion, avec Alexandra, de vous présenter tous nos meilleurs vœux. Tous mes vœux, déjà rien que pour toi, Alexandra, et pour tes proches.
Ça, c'est très gentil. Et puis, à mon tour aussi, je vous souhaite à tous une très, très bonne année 2021.
Et comme c'est par les ondes, on peut vous faire un gros bisou à toutes et à tous sans qu'il y ait de soucis. Dans cet épisode 5 pour débuter l'année 2021, eh bien, on le sait, hein, malheureusement, la crise économique et sociale induite par la Covid-19 a eu des répercussions dans notre région. Traitement ou vaccin pour endiguer cette crise économique? Eh bien, on va en parler dans quelques instants avec Vincent Frelicher, directeur général de l'ADIRA, l'Agence de développement économique de l'Alsace. Mais d'abord, bien sûr, le message présidentiel, celui de monsieur Daniel Rettler, président des juniors d'Alsace. Et oui, c'est que du love chez les juniors d'Alsace. Que du love, président, dis-nous tout.
D'emblée, meilleurs vœux de réussite à tous, à nos adhérents et aussi à nos partenaires des entreprises, puisque ça passe par là d'abord, et bien sûr à tous nos sympathisants. Alors il faut savoir que toute l'équipe est sur le pont, les temps sont difficiles, mais nous savons lutter. Et donc dans la joie, nous allons continuer nos rencontres café en visioconférence, au même titre que des ateliers emploi et les coachings personnalisés. Voilà.
Merci Daniel. Et voilà. Puis les juniors qui fêtent leurs 10 ans, voilà, cette année aussi. C'est ça. Une belle année 2021 pour nous.
Voilà, c'est une grande année pour nous puisque une décennie vient de s'écouler depuis la création. Vincent Frelicher qui est là aujourd'hui est parmi nos premiers soutiens et j'en suis très heureux qu'il soit là. Et nous allons donc fêter en principe au mois de mai. On ne sait pas si avec la crise sanitaire on pourra le faire. On y travaille aussi bien avec toute l'organisation, les artistes, etc. C'est prévu à Aubernay chez Bernard Fischer. On espère que ça va marcher. Sinon, on sera un peu obligé de décaler. Mais ça sera une grande fête et on attendra du monde.
Bon, eh bien écoute, on espère évidemment. Et puis pour celles et ceux qui veulent voir, suivre ces rencontres café, ces ateliers emploi, c'est sur www.juniorsdalsace.org et également c'est sur ça. Les réseaux sociaux, bien sûr, des juniors d'Alsace. Merci Daniel. Nous allons accueillir Alexandra dans un instant. Vincent Frelicher, directeur général de l'ADIRA. Et parmi les missions de l'ADIRA, qui a fêté ses 70 ans l'an dernier, il y a l'attraction en Alsace d'entreprises, le maintien des entreprises sur ces territoires, en lien avec les collectivités locales. Et c'est donc un peu le messager des entrepreneurs qui est face à nous pour ce podcast. Vincent Frelicher, à qui on va poser une première question dans un instant après un tout petit peu de musique. Est-ce qu'il y a un petit côté hardcore dans l'engagement quotidien des équipes de l'ADIRA?
Oui, merci de m'accueillir. Je dois répondre à la question du hardcore.
Est-ce que c'est hardcore aujourd'hui d'être à l'ADIRA? J'imagine que c'est tout sauf une sinécure.
Non, je pense qu'effectivement, c'est un engagement, c'est une passion. On vient pas à l'ADIRA pour devenir riche. Hein, c'est une association de droit local de 34 personnes financée par fonds publics. Donc c'est pas un endroit où on vient véritablement pour devenir millionnaire. C'est un endroit où on vient par passion et par vocation peut-être aussi pour servir un territoire, ses entreprises et ses bassins d'emploi, créer de la valeur, créer du progrès social par la création de richesses. Alors après, hardcore, la question, je ne l'avais pas préparée, mais je dirais oui, c'est un peu hard. Mais il y a aussi beaucoup de bonheur, il y a aussi les bonnes nouvelles, il y a aussi les belles choses, donc c'est hard et soft. C'est hard parce que ça peut être assez binaire, hein. Un projet d'implantation ou un projet de développement ou un projet de sauvetage d'usine. Hein. Nous, on est surtout dans l'industrie, la grande industrie et le tertiaire supérieur. C'est hard parce que c'est binaire. Hein. Soit l'usine, elle est fermée, soit elle est ouverte, soit elle s'implante ici, soit ailleurs. Mais je vais plutôt élaborer sur le corps. Quoi. Le corps, oui, c'est physique. Parce que même en ces temps de virtuel et de télétravail, etc., ça se passe sur le terrain. On continue à être sur les sites industriels, à être sur les territoires. Puis corps, parce qu'il y a le cœur, le hacker. On y met beaucoup de cœur, c'est un métier de passion. Et puis le hacker de la marque Alsace, parce que ces temps troublés, les temps de l'année dernière, c'est aussi un moment où tout le monde se rappelle de l'importance de la proximité, l'importance du rapport humain, l'attachement au terroir, les terroirs rassurent, les gens ont besoin de se raccrocher à des valeurs. Donc Oui, c'est hard et c'est core.
C'est hard et c'est core. Alexandra, pour toi aussi, actuellement, c'est hardcore, puisque au-delà d'animer avec bienveillance et talent ce podcast, tu travailles au plus près de celles et ceux qui cherchent de l'emploi. Vous êtes finalement les deux faces d'une même médaille.
Oui, c'est exact. Et merci, en tout cas, Monsieur Froligère, d'être là aujourd'hui et de répondre à l'ensemble de nos questions. Tu as entièrement raison, Emmanuel. C'est compliqué dans un sens, c'est compliqué du point de vue des entreprises et également des candidats. On va essayer au mieux de répondre à toutes les questions que l'on peut se poser pour cette année, pour l'année qui est passée, et puis donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir.
Première question toute bête, au 1er janvier 2021, c'est quoi la photo de l'emploi en Alsace ?
Ben pour pas, l'année ne fait que commencer, mais on ne peut pas ignorer évidemment ce qui est la session qui vient de se passer et qui prépare la situation d'aujourd'hui. Moi, je remonterais même pratiquement à fin 2019. À fin 2019, je me souviens de notre conseil d'administration de fin d'année. On faisait déjà une année à la DIRA très forte, quand je dis on, c'est-à-dire sur le plan de l'Alsace, hein, sur le plan de l'investissement industriel et même la création d'emplois, à tel point que je me souviens encore, j'alertais les élus, pour la xème fois d'ailleurs, ça fait un moment qu'on en parle, sur des pénuries. On était sur des pénuries de foncier, on n'avait pas de terrain à proposer. Rappelez-vous, tout le monde a rigolé sur le dossier Tesla, etc. Ben non, on n'avait pas 180 hectares disponibles tout de suite d'un seul tenant pour Tesla, et même des indisponibilités de terrain sur des surfaces plus petites. Et j'alertais, et ça vient vers nos sujets, sur des pénuries de main-d'œuvre. Alors, on est d'accord sur certains types de métiers, sur certains types de qualifications, etc. Et donc, on était dans ce côté à se dire, tout juste si on n'avait pas trop de projets, trop de développement. Je caricature un peu. Quelques mois après, le 9 mars, je fais un CA pour qu'on me donne les moyens de faire une feuille de route resserrée sur les missions de la DIRA. Et le 15 mars, toute notre équipe est en télétravail, confinée, en télétravail, etc. Donc, s'ensuit une première période que tout le monde a vécue, puisqu'on était tous là, je pense, d'hystérie collective, j'allais dire, au niveau des entreprises, avec des moments absolument incroyables pendant le premier confinement, pour faire court. On a tous vécu ça, les rumeurs tous les 4 heures, les plateformes de déclaration de l'activité partielle qui explosent, les débats sur les industries stratégiques qui allaient être fermées ou pas, les prêts, etc. Aussi tout cet environnement-là pénurique, pour le coup, fallait du gel, il n'y a pas de gel, fallait des masques, il n'y a pas de masques, fallait des tests, il n'y a pas de tests. Enfin bon, ça a été quelque chose d'assez fou. Ensuite, à partir de la fin du premier confinement, un rattrapage, nous qui sommes sur l'industrie, beaucoup, un rattrapage très fort, c'est-à-dire que toutes ces activités, enfin la plupart de ces activités, dont certaines avaient fermé. Alors ça, c'était dingue. Un chef d'entreprise qui dit au téléphone, j'ai mis la clé sous la porte, ou j'ai fermé la boîte. On ne savait pas si la boîte était morte ou s'il l'avait fermée parce que les gens ne pouvaient pas ou ne voulaient pas travailler. Ça. Donc on est passé par des moments fous, je pourrais en parler des heures, donc j'arrête là, mais donc évidemment, un petit peu là, une espèce de joie, une espèce d'enthousiasme, ensuite de repartir, de retravailler, de revendre, de reproduire. Et puis ensuite, effectivement, cette fin d'année un petit peu folle, où il y avait encore énormément d'incertitudes, et où chez nous, à la DIRA, se mélangent les bonnes nouvelles, dans la mesure où on fait une année historique, 1,4 milliard d'euros d'investissement juste par nous, juste suivi par la DIRA, ça fait 500 projets réalisés ou sûrs d'investissement. Ça pèse 4 000 créations ou sauvetages d'emplois. 1,4 milliard, c'est assez énorme. 2 projets en centaines de millions d'euros, dont l'un a été annoncé en fin d'année, c'est l'implantation des Chinois de Huawei. Une vingtaine de projets en dizaines de millions d'euros d'investissement. Donc, en même temps, une très grosse année avec des secteurs qui investissent et qui marchent. On pourra y revenir. Puis en même temps, ben, les autres, tous les autres. C'est-à-dire, si on regarde le verre à moitié vide, même quand on dit à la Banque de France ou autre que l'industrie, sur la fin 2020, retrouve un niveau d'activité aux alentours de 90% en moyenne, peut-être même plus. Même si on regarde de l'autre côté, 10% d'activité qui manque, c'est énorme. Donc, évidemment, certaines entreprises qui sont en souci, d'ores et déjà l'année dernière, certaines qui l'étaient déjà en 2019, donc ça ne s'est pas amélioré depuis, même s'il peut y avoir un effet un petit peu cash, des mesures spéciales qui cachent un petit peu la réalité des choses. Mais donc, des activités aussi qui sont impactées directement ou indirectement par les fermetures administratives. On le voit actuellement, le débat sur les brasseurs, la distribution d'un certain nombre de produits, le tourisme, les croisiéristes, les transporteurs. Donc, une fin d'année qui préfigure la situation, pour répondre à la question maintenant d'aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des gagnants quelque part ou des gens qui s'en sortent bien, mais on commence à voir aussi de plus en plus d'angoisse dans des secteurs, dans des entreprises qui marquent le coup par rapport à l'incertitude, qui voient que ça va durer peut-être plus long. Certains matelas et de sécurité ont un petit peu fondu. On leur demande de prendre des positions par rapport au remplacement, au remboursement, ou en tout cas au rythme ou aux conditions de remboursement de leur PGE. Le début d'année est compliqué. Certains projets annulés, reportés. Donc, il est un petit peu tôt pour dire, mais en tout cas, une rentrée un petit peu tendue après une fin d'année plutôt euphorique, parce que c'est vrai qu'on sortait un résultat qui était important.
Vous devez souvent avoir cette question, mais où est le bout du tunnel pour toutes ces entreprises, pour toutes ces personnes? Est-ce que vous êtes confronté à ça? On vous dit, on tiendra encore 6 mois, mais pas un jour de plus?
Voilà, je pense que tout le monde est logé à la même enseigne. On vit au rythme des conseils de défense, au rythme des allocutions du président de la République ou des ministres. Alors nous, en Alsace, en fait, l'année dernière, à l'échelle du Grand Est, plus exactement l'année dernière, la préfète de région et le président de région, Jean Rottner, ont institutionnalisé ce qu'ils appellent la visioconférence de la Task Force économique. Donc, elle a lieu d'ailleurs tout à l'heure, à 16h45. Donc, régulièrement, un certain nombre de responsables économiques, je dirais, les chambres consulaires, les grands corps de l'État, les branches, les filières, les agences de développement sont ensemble pour échanger sur la situation. Alors, c'est assez symbolique et emblématique ce que je vais dire. Là, d'abord, il y a le mot d'accueil par le président Rottner et la préfète, madame la préfète. Et ensuite, ça commence par la météo sanitaire, par l'ARS. En fait, on commence par le sanitaire, quoi. Et on est tous là. Donc, oui, l'incertitude est très forte. Et c'est un élément, évidemment, qui pèse sur le moral de tout le monde, quoi. Et là, quand même, premier confinement, deuxième confinement. Là, maintenant, on nous annonce un troisième confinement pour février, fin février ou mars. Certains parlent de 3 épisodes de confinement, de 3 vagues possibles sur l'année 2021. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens n'en voient pas trop le bout. Et c'est générateur d'immenses angoisses pour les dirigeants de l'industrie, du tertiaire supérieur. Mais je pense, c'est des secteurs que je connais moins bien, mais ça doit être évidemment horrible pour toutes les entreprises qui sont en situation de fermeture administrative. J'ai quand même des amis commerçants, restaurateurs. Enfin, personne n'est programmé pour vivre d'aide de l'État, de subventions et d'activités partielles. Enfin, le mec qui crée l'entrepreneur, il aime ce qu'il fait. Enfin, il veut travailler, il veut créer, il veut se développer. Donc, c'est compliqué, oui, c'est compliqué. Et pour les salariés aussi, bon, nous sommes des salariés. Je dirais que même si notre boulot est super intéressant et hardcore, comme tu disais, il y a aussi ce côté, nous, on est en télétravail, hein, donc on va sur le terrain, comme je disais, on va en usine.
Mais de façon très rationalisée.
Ouais, mais voilà, j'ai été obligé de le dire à l'équipe, vous faites très attention, allez-y quand c'est indispensable, etc. Je peux pas les enfermer complètement à la maison, déjà sur un point de vue business, ce serait pas, et même symbolique, relationnel, ce serait pas bon. Et en plus, je sens qu'au bout d'un moment, rester trop à la maison, c'est très déprimant pour les, ça pèse sur le moral, quoi. Nous, on ne s'est pas vus, les 34 de la DIRA, comme on est sur trois bureaux à Mulhouse, Colmar et Strasbourg. Je n'ai pas pu, pour l'instant, vu les règles qui ont été mises en place en accord avec notre président et notre CSE, mon équipe de 34, c'est pas beaucoup, 34, ils ne se sont pas vus en plénière depuis le 13 mars de l'année dernière. Et ça, j'ai fait les entretiens de fin d'année, ça plombe, ça leur manque, Les gens m'ont dit, on est fiers, on s'est éclaté, on a bossé comme des fous, on s'est senti utile, etc. Mais en même temps, c'est dur de ne pas voir les collègues, de ne pas aller au bureau. Voilà, mais je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. On est encore des privilégiés. On a du travail, on a notre salaire. Je n'ai pas fait d'activité partielle, je n'ai pas licencié. Bon, les gens sont au travail et sont rémunérés, donc on va faire pleurer personne, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de salariés, s'ils entendent ça, ou a fortiori des gens qui ne sont pas salariés, justement, à la limite, c'est encore être confiné chez soi, je suppose, je me mets à la place pour les juniors, la personne qui, en plus, en recherche d'emploi, en recherche d'opportunités, qui comptait sur ses réseaux, sur des... C'est vrai que ça plombe, quoi. C'est terrible, c'est déjà terrible pour beaucoup de salariés.
C'est totalement juste hein, ce que vous dites. C'est très anxiogène de travailler hein, seul. Hein. Donc, on pense à tous ces auditeurs hein, qui sont ou en télétravail ou sans emploi. Et après, bon, la bonne note, c'est qu'on a vu, et vous le dites auprès de vos équipes, de la créativité. Il y a des gens qui ont été très créatifs. Il y a des chefs d'entreprise qui ont été très créatifs. Hein. Je crois que vous avez pu le constater hein, sur cette année passée. Et je pense qu'on va encore le constater sur l'année 2021.
Il y a aussi eu des moments de solidarité... assez extraordinaire. Hein. Tout le monde n'a pas été dans le journal. Les mouvements de solidarité sur les gels, je me souviens des concessionnaires automobiles qui offraient des housses de siège aux infirmiers. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées un peu sous le feu des radars. Énormément de solidarité et énormément aussi d'abnégation. Beaucoup de gens qui ont fait des choses extraordinaires l'année dernière pour le personnel soignant, pour les malades, etc. Ils n'ont même pas voulu qu'on les mette sur nos sites internet ou sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai, c'est bien que vous le disiez. Il y a évidemment des choses moches, mais il y a aussi beaucoup de très belles initiatives. Ça, c'est vrai.
Est-ce que, pour prolonger cet échange, les entreprises... au niveau de l'emploi, au niveau des salariés, au niveau des appels à nouveaux salariés, dans celles qui peuvent se le permettre, elles se réinventent. Est-ce qu'on sent que les gens, après avoir subi pendant les premières semaines, ce qui est tout à fait logique, se sont dit, on va faire avec, on va voir comment on peut faire, finalement une sorte de judo mental.
Moi, j'ai l'impression, moi j'ai tendance à toujours chercher les belles choses, à chercher les choses positives. Bien entendu, il y a de tout. Il ne faut pas être bisounours ou... Mais on a, oui, entendu beaucoup de belles histoires. Bon, il est certain qu'il y a eu une période assez hystérique où tout le monde était perdu. Est-ce qu'il fallait travailler, pas travailler est-ce qu'il... Bon, oui, je pense que les entreprises se sont réinventées ou sont en train de se réinventer, beaucoup d'entre elles. Enfin, c'est-à-dire des chefs d'entreprise m'ont dit à quel point c'était formidable tout d'un coup... de voir qu'à un moment, peut-être, où la théorie dominante était qu'il ne fallait pas aller travailler, et eux, ils avaient absolument besoin de leurs salariés, que les gens sont venus, que les anciens sont venus. Là, on est sur les juniors, mais il y a jeunes et seniors. Je ne lance pas la pierre aux jeunes, c'est horrible, le moment qu'on traverse, c'est pas marrant, forcément, d'être jeune aujourd'hui. Mais beaucoup de chefs d'entreprise nous ont dit, les anciens, la partie peut-être un peu senior des juniors, ils étaient là, ils étaient au boulot parce qu'il y a il n'y a pas de mystère, les entreprises où il y avait un bon climat social, ça s'est mieux passé, forcément, puisqu'on était dans quelque chose de plus win-win. On a découvert peut-être aussi forcé que les gens pouvaient télétravailler sans tirer au flanc. Beaucoup de gens m'ont dit, moi je les ai vus partir, je ne savais pas s'ils bossaient ou pas. Les logiciels n'étaient pas forcément prêts, etc. Chacun a fait comme il pouvait. Certains ont bossé sur l'ordi personnel à la maison, dans un coin de la cuisine, ou je ne sais pas où. Et finalement, beaucoup d'entreprises nous ont dit, il n'y a pas forcément eu tellement de pertes de performance. Je pense, oui, qu'il y a... Peut-être qu'on a redécouvert certaines compétences. Les gens qui sont sur le terrain, les gens qui sont dans des opérations concrètes, les gens qui sont dans l'usine, dans l'entrepôt. Peut-être on a redécouvert à quel point c'est bien que c'est important qu'eux, ils soient là à 6h du mat, etc., etc., etc. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais je pense probablement que dans beaucoup de secteurs, des regards ont pu changer des uns sur les autres.
Et toute cette digitalisation aussi. On a appris à mieux se servir, que qu'on soit salarié, candidat, demandeur d'emploi, entreprise, à se servir de l'outil digital, de l'informatique. Je crois que jamais autant on n'a fait des apéros. On a le droit de le dire aussi, en Zoom.
Ouais, alors chez nous, à la DIRA, pour l'anecdote, vous avez raison, je ne vais pas tout ramener à la DIRA, mais puis c'est moi que vous interrogez. Donc nous, on s'interrogeait depuis longtemps sur Teams, quoi. Donc on avait la suite Office 365 et tout, on tournait autour un petit peu de Teams, on avait un autre outil, mais plus ancien. Et donc, je sais que j'avais ici l'écoute Damien Rossignon d'Altrix, nous avait reçu avec Monique Young à Rosheim, et il nous avait vanté les bienfaits de Teams, et puis petit à petit, on plantait des jalons. Mais l'équipe résistait un petit peu, il y avait un peu d'inertie par rapport à un outil qu'on avait déjà en place. Bon, ben là, de mémoire, le 13 mars, les auditeurs vérifieront, ça doit être un vendredi. Donc, le vendredi soir-là, donc dans la semaine, j'avais ce fameux CA, et on décide le vendredi soir de passer en télétravail. Donc, on était pas sur Teams. Et le lundi matin, donc, on faisait notre première réunion plénière à 34 sur Teams. Donc, on a basculé en un week-end, après quelques mois de tergiversation, dans Teams. Et beaucoup de chefs d'entreprise m'ont dit que aussi tout le monde s'y est mis. Alors, après, on a eu droit. Alors, il y avait les Teams, les Zoom, les Livestorm, les Starleaf et les autres WebEx et Skype. Et on est tous rentrés là-dedans. C'était un truc un peu de malade. Alors après, je pense qu'on s'en sert très mal. C'est-à-dire, on fait, voilà, enfin... Alors nous, par exemple, le boulot chez nous maintenant, c'est de devenir meilleur. Alors comme on va réintroduire une part de présentiel, même interne, c'est les questions, qu'est-ce qu'on fait par Teams, qu'est-ce qu'on fait en présentiel, comment on anime une réunion efficace sur Teams et une réunion... Et on devient, du coup, on en profite pour aussi dire comment on est meilleur pour animer une réunion de façon générale. Donc oui, c'est vrai, on réinvente un certain nombre de choses. Les nouveaux enjeux de cybersécurité, on revoit le matériel, le management aussi.
Est-ce que le management devient plus humain dans ce genre de circonstances? C'est quelque chose qui a été constaté auprès des dirigeants d'entreprise. Certains se sont mis à avoir plus d'humanité. Pour ceux qui n'en avaient pas forcément, attention, hein, je suis pas en train de dire que tous les patrons sont inhumains, très loin de là.
Encore une fois, je pense qu'il y a toutes sortes de styles de management, toutes sortes de, je veux pas être ni bisounours, mais encore une fois, personnellement, je suis plutôt attiré par effectivement l'humain, une certaine humanisme dans le management, et je veux croire, ou en tout cas. Je veux regarder dans la direction où, effectivement, des chefs d'entreprise ont redécouvert, peut-être, oui, certains impératifs de la relation humaine. J'en parlais tout à l'heure, et du climat social, et de l'écoute, de la proximité, du travail de terrain, de la reconnaissance. Ce que je disais tout à l'heure, des chefs d'entreprise m'ont dit y a des gens que je ne voyais plus, parce qu'ils ne sont pas à mon étage de bureau, si je caricature. Mais que quand, dans le premier confinement, sans vouloir être désobligeant pour certaines fonctions sièges ou support ou tertiaires, pour moi, c'était une question de vie ou de mort que telle ou telle personne soit là à 6 heures du matin, dans l'entrepôt ou sur le floor de l'usine, quoi. Et peut-être ils ont redécouvert, oui, un certain nombre de fonctions, voire de personnes. Et il a fallu mettre de l'humain parce qu'il fallait que les gens soient là ou parce que les gens ont été là et qu'il fallait donner une certaine reconnaissance. Après, les chefs d'entreprise, en même temps, peuvent être humains et en même temps, il y a quand même des impératifs de performance. Après, on peut être performant et humain ou on peut être performant car humain. Enfin, tout ça va ensemble. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coup de pub pour notre label Alsace Excellence qui fait partie du dispositif Marque Alsace animé par la DIRA. pour les entreprises qui auraient envie de signaler un petit peu en même temps leur attachement à l'Alsace, qui est une valeur qui intéresse les salariés, et certains attributs sociétaux, sociaux et environnementaux. Je vous recommande, c'est un label qui a le vent en poupe.
Et on ne l'aura jamais assez dit que l'ADIRA fera rayonner la marque Alsace. Monsieur Frelégère, justement, j'avais une question concernant donc ces entreprises, ces secteurs. Quels sont les secteurs qui s'en sortent le mieux et quels sont les secteurs qui s'en sortent malheureusement le moins bien ?
Bon, si je regarde les investissements, les gros projets d'investissement, les principaux de l'année dernière, hein, donc je disais, ça totalise 1,4 milliard. Il y a 477 projets réalisés ou finalisés. Et je dirais, sur ce petit 500, il y en a grosso modo 200 qui créent de l'emploi ou de l'investissement. Les autres sont des projets plus dans la prolongation de choses qui existent, où on a amené de la facilitation ou du conseil ponctuel. Et donc, c'est les principaux projets, donc la chimie, la pharmacie, la santé de façon générale. Il y a eu les quelques aventures aussi dans le masque. On a donc accompagné la création du consortium Baral. Et puis, on les a mis en contact. On a eu l'idée de Malebert, hein, d'une usine qui était en restructuration, en réorganisation sur Roufac. Ou l'implantation de Dreger, par exemple, qui est dans le journal ce matin à Aubernais, sur du FFP2, etc. Il y a eu des développements dans l'industrie agroalimentaire. Pas chez tout le monde, mais il y en a eu beaucoup. Bon, il y a eu des annonces d'ERTA en fin d'année, etc. Mais rappelez-vous les pas de grand-mère, Philippe Heimburger, qui témoignait de la dynamique. Bon, évidemment, j'allais dire les pâtes et le papier. Quelqu'un dit les pâtes et le PQ. Bon, mais ça, c'est péjoratif, non ? Sur quelques beaux produits agroalimentaires alsaciens ou autres. Il y a eu de la dynamique logistique de l'e-commerce, des projets même un petit peu polémique, hein, autour d'Amazon, qui est, pour l'instant ne se font plus l'actualité, mais bon, c'est pas pour ça que la logistique de l'e-commerce ne se développe pas et ne se développera pas. Un phénomène intéressant dans la logistique, lié probablement à la problématique des vaccins, etc. On a actuellement un gros développement sur la logistique froid, les data centers, le numérique, vous l'avez dit, tout ce secteur-là. Voilà, ça, ce sont par exemple des secteurs qui ont bien marché, mais du coup, quand certaines grandes industries comme ça, un peu sophistiquées, marchent bien, tout ce qui est derrière, en termes de composants, en termes d'équipements, bon, suit quand même. C'est ainsi qu'on a vu, par exemple, des gros investissements de Haguère, aussi bien sur Aubernais, sur l'éco-parc Rhénan, au nord de Strasbourg, ou d'entreprises aussi d'équipements, quoi. Après, les secteurs qui souffrent ou ont souffert, ben, il est sûr que tout ce qui est transport des personnes, tourisme, croisière, tout ce qui est peut-être dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, c'est compliqué. Dans l'agroalimentaire, ben, ceux évidemment qui dépendaient plutôt des hôtels, des restaurants, enfin, forcément toutes les industries qui vendent dans les secteurs qui sont fermés administrativement, c'est compliqué, quoi. Ben, la culture, il y a aussi des industries très pour la culture. Oui. Vous regardez un Raymond Schweitzer, c'est chez oui. Staco Fasen. Oui. Raymond a communiqué, hein, sur sa difficulté. Sure. Vous prenez un Formals avec Aquatic Show. Dominique a parlé de sa difficulté quand les choses sont annulées, etc. Donc, je dirais, oui, il y a tout à fait. Il y a des industriels aussi qui sont en amont, en aval de l'activité culturelle, artistique et qui sont impactés, oui, tout à fait. Pensons à la restauration collective, pensons, voilà.
Voilà un panorama complet. Daniel Rettler, le président, nous rejoint pour ces 5 dernières minutes, bah, pour que vous échangiez ensemble. Daniel, président, qu'as-tu retenu justement de ce qu'a dit Vincent Frelégère sur ce paysage finalement très mitigé ?
Ah ben oui, il est très mitigé, mais on voit quand même qu'il y a des volontés, des forces en présence, des gens qui ont vraiment envie de réussir malgré les difficultés de la crise. Et quand j'entends le nombre de projets, c'est quand même énorme, les projets sur l'Alsace. Donc c'est très encourageant pour ceux qui sont effectivement dans l'épreuve de la recherche, aussi bien ceux qui, chez nous, créent leur entreprise individuelle, que ceux qui cherchent des postes de salariés ou même dans le portage salarial. Donc tout ça, ça ne veut pas dire que les portes se ferment. Au contraire, il y a des projets. Et donc, je prends ça comme très positif, malgré un fond, je dirais, difficile, quoi.
Oui, ça, c'est vrai. J'ai un truc que je n'ai pas pensé. Daniel le dit. Apparemment, ça, c'est quelque chose que j'ai lu. Hein, la DIRA, nous ne sommes pas spécialisés dans la création d'entreprises, mais je lisais, comme vous, qu'il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises. Oui. Donc, beaucoup de gens... et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a eu tout ce foisonnement de créativité, etc. L'autre chose, c'est qu'il y a encore effectivement plein d'entreprises sur de multiples postes et fonctions qui recrutent et qui ont même du mal à recruter. Ça, je voulais le dire. Autre chose, parce que...
Où est-ce qu'on peut trouver ces postes? Via la DIRA, peut-être?
Non, ce n'est pas votre mission.
L'offre d'emploi.
Oui,
L'offre d'emploi.fr. Oui. On précise, Alexandra.
Je voulais mentionner aussi, le président me tendait la perche, que... L'Alsace, de par sa concentration industrielle et économique dans le Grand Est et en France, il y a plutôt encore une dynamique. Vous savez, on dit toujours, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Il y a quand même aussi des bons côtés. Je voudrais rappeler aussi l'effort très important qui a été mis en place et qui sera développé par les collectivités locales, l'État, la région notamment, sur la formation... sur les opérations pour l'emploi des jeunes, pour maintenir un niveau correct d'apprentissage, d'alternance. Il y a aussi, mais je suis sûr que les juniors font cette veille, sinon on peut en reparler. Il y a aussi des dispositifs qui sont là pour aider les personnes.
Oui, nous travaillons avec différents organismes.
Évidemment, oui, bien sûr. Et au niveau, évidemment, de la collectivité européenne d'Alsace, un renforcement qui est prévu pour toute la politique d'insertion par l'activité, évidemment aussi sur le côté de l'appui à l'apprentissage linguistique, à la coopération transfrontalière. Donc j'ai beaucoup parlé d'entreprise, mais l'État et les collectivités ne sont pas restés inertes. Il y a eu une production, moi j'avais jamais eu ça de ma vie. Il y a eu un moment, rappelez-vous, au début des premiers mois notamment, où on n'arrivait plus à suivre les nouvelles mesures, les textes de loi. Enfin, les parlementaires alsaciens nous racontaient que c'était non-stop, quoi. Donc je pense que même s'il y a eu des loupés ou des choses comme ça, il y a aussi eu énormément de travail des uns et des autres.
Si on devait, pour les mois à venir, mettre une couleur, si on avait le fameux feu tricolore, ce serait quoi? Ce serait un rouge vif? Ce serait orange? Ce serait un vert, même si c'est un vert un petit peu pâle?
Moi, je veux croire avec la vaccination, avec la courbe d'apprentissage des uns et des autres qui tirent les enseignements de ce qui s'est passé, on va plutôt vers du vert. Et puis, ça a été dit, moi, d'abord, je suis optimiste, sinon on ne peut pas vivre et on ne peut pas en tout cas faire mon métier. Et les chefs d'entreprise qui nous écoutent savent très bien qu'on ne peut pas entreprendre sans être quand même optimiste et créatif. Donc, je pense qu'on va s'en tirer. Simplement, c'est un lieu commun de le dire, l'après ne sera pas comme l'avant. Donc, voilà, il y a des dangers, mais il y a aussi plein d'opportunités. Et tous les jours... ça a été dit, on voit des gens qui créent des nouveaux produits, des nouveaux services, qui s'adaptent. Et regardez, le deuxième confinement n'était déjà plus comme le premier. Et là, il n'y a pas la panique qu'il y avait il y a un an quand on nous reparle de confinement au mois de mars. Donc il y a beaucoup de gens qui ont aussi intégré, qui se sont... Et puis, on n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix.
Moi, j'ai beaucoup aimé Emmanuel, monsieur Frelinger, monsieur Rattler. Cette dynamique, et puis pour les mots, c'est cette créativité, cet enthousiasme à continuer. Donc, moi, je vous rejoins. Les feux sont au vert, les entreprises ont fait tout ce qu'elles pouvaient, et les salariés, les candidats sont derrière leurs entreprises. C'est ce que j'ai envie de me dire, moi, aujourd'hui.
Effectivement, Alexandra, merci beaucoup Vincent Frelinger. Il y avait un autre sujet dont on voulait parler, mais ça sera l'occasion d'un autre podcast, parce que c'est un sujet en soi, c'est l'emploi des cadres, puisque l'Alsace est, semble-t-il, en pénurie de cadres. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais on pourra en reparler de façon...
Oui, on pourra en reparler. Voilà, c'est un petit peu plus nuancé, mais c'est vrai qu'il y a parfois, et on en reparlera, une difficulté de l'Alsace à attirer effectivement des personnes de l'extérieur. Et donc, on pourra en reparler dans quelques mois. On va lancer une marque employeur de territoire.
Alors, il faudra revenir pour nous la présenter en exclu. Voilà. Promis. Et puis, on va se quitter à nouveau en musique. On n'est plus dans le hardcore, on est dans la musique légèrement électronique, mais musique avec beaucoup d'espoir. Et voilà, Big Flo et Oli et Petit Biscuit. On espère que ça ira mieux demain. Un immense merci Vincent Frolichard et à très bientôt pour parler de ce nouveau label. À très vite.